Superfail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Superfail.
Une usine de voitures, ça peut produire plus ou moins de voitures. Mais cette voiture, je veux dire, cette voiture par jour, est-ce bien raisonnable, même lorsqu'elles sont siglées alpines ?
Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Redelet, monsieur Alpine.
Je me suis rendu compte qu'avec les mécaniques françaises, on pouvait faire quelque chose de bien. Et après avoir roulé ma bosse sur toutes les routes de France et de Navarre, j'ai pensé que si ces voitures étaient équipées d'une carrosserie sportive, on devait pouvoir faire en France des voitures de sport très valables. Alors j'ai commencé à faire ma première voiture en 1952. Nous avons réalisé 4 ou 5 prototypes. Et en 1955, la société Alpine est née avec des moyens au départ très limités. Et elle est arrivée au niveau que vous connaissez maintenant. Nous vendons actuellement à peu près 2 fois plus de véhicules que l'année dernière. Et la production va pratiquement maintenant être à la cadence de 1500 voitures par an. Et nous espérons, avec la nouvelle usine qui est en cours de construction, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger.
Prenez quelques feuilles de tissu en fibre de verre, un peu de résine à 2 composants, faites chauffer le tout dans un moule pendant 7 minutes à 50 degrés et vous avez la recette d'une voiture unique au monde, tout en plastique et entièrement collée. Ailes, portières, pavillons, toits sont autant de pièces de tissu de verre qui, arrosées de résine, chauffées et comprimées dans un moule, constitueront les pièces d'un puzzle qui ressemblera à une Alpine Renault. Alors, à quand les voitures anti-rouille et légères pour tout le monde ? Pas pour tout de suite, car nos robots découpeurs et colleurs ne sortent que 10 Alpines par jour. Ils ne sont pas encore prêts à prendre les cadences des 2000 Renault 5 fabriqués quotidiennement.
Vous étiez d'abord comme une amie, comme une soeur.
Alpine Renault, un mythe vivant, choisi par Claude Lelouch pour être une des vedettes de son nouveau film.
Sur le...
Alors, dans l'ordre, vous avez entendu un extrait de la voix du fondateur d'Alpine, Jean Redelet, c'était en 1969 pour un reportage de l'ORTF. Un autre extrait d'un reportage de l'émission télévisée Par Choc, c'était en 1986 sur France 3. Et enfin, la fameuse publicité de la Renault Alpine devant le Mont-Saint-Michel en 1990. Bonjour Benjamin Cuc. Vous êtes journaliste spécialisé dans l'automobile et vous avez notamment publié le livre noir de Renault, je l'ai dit. Donc Alpine, c'est la renaissance, une renaissance hélas modeste, puisque l'usine de Dieppe, où sont donc fabriquées les Alpines, fabrique 7 Alpines par jour. On en est sûr ?
Oui, on en est absolument sûr, Guillaume Erner. Donc on fabrique 7 Alpines par jour. Et depuis le 1er janvier, en fait, ça correspond à une diminution de 50% de la production de Renault Alpine qui avait été annoncée fin décembre parce que la demande n'est pas exactement à la hauteur de l'offre potentielle puisque cette usine de Dieppe, qui a été construite en 1969, est capable de produire 150 voitures par jour. Sa capacité de production, c'est 150 par jour. Et mais historiquement, c'est l'usine de Renault Sport. C'est-à-dire que toutes les voitures qui sortaient de cette usine étaient des Renault sportives. La Renault 5 Turbo, la Renault 9 Turbo, la Renault 11 Turbo, la Renault Mégane RS et l'Alpine.
La Renault Mégane RS est encore fabriquée là-bas ?
Non. La Renault Mégane RS n'est plus fabriquée là-bas, pas plus que la Renault Clio RS. Les dernières Clio RS sont sorties en 2018. Et il en était produit à peu près 4000 par an, autant que des Alpines. Donc ça équilibrait, on arrivait à une trentaine de voitures par jour qui sortaient. Sauf que la Clio RS est fabriquée maintenant, où est fabriquée la Clio, c'est-à-dire en Turquie. Les Clio sportives sont fabriquées en Turquie.
La Mégane.
La Mégane est fabriquée en Espagne et la Alpine est fabriquée à Dieppe.
Alors, on nous a expliqué que la renaissance d'Alpine était un beau symbole français, puisque effectivement, Alpine, rien que le nom, ça nous fait rêver. On songe aux Alpines, aux DS, bref, à des voitures qui ont enchanté les routes à l'époque des 30 Glorieuses, Benjamin Cuq, que cette voiture par jour, c'est pas vraiment un succès.
C'est pas vraiment un succès, surtout que c'est pas une voiture très chère. C'est-à-dire qu'à 7 voitures par jour, quand vous la vendez 60 000 euros en moyenne...
Bon, ça fait beaucoup d'argent, hein, 60 000 euros.
Oui, mais ça fait un chiffre d'affaires de 350 000 euros par jour, 200 millions. En année pleine maximum, on arrivera à 200 millions.
Mais c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'argent pour un particulier, mais pas beaucoup pour un constructeur automobile.
Pour un constructeur automobile, ça coûte très cher de fabriquer une voiture, d'autant qu'il y a 400 salariés chez Alpine. C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes sur une ligne de production et beaucoup de gens sont payés à regarder les autres travailler ou en alternance.
Quoi. Mais les voitures de luxe, par exemple, est-ce qu'on n'arrive pas à ce type de cadence ?
Bah, si, on arrive à ce type de cadence, mais chez Rolls-Royce ou chez Bentley en Angleterre, où on est déjà plus à fabriquer, il y a plus de salariés dans ces entreprises, environ 1200, mais on produit entre 6 et 10 000 voitures par an qui coûtent entre 300 et 450 000 euros en moyenne. Qui coûtent 10 fois plus cher en moyenne. Donc là, effectivement, le groupe BMW ou le groupe Volkswagen peut s'y retrouver. Mais sur une petite production à un coût aussi élevé, parce que ça a coûté très cher à développer l'Alpine. C'est une voiture qui a coûté très cher parce qu'il n'y a quasiment pas de pièces communes avec les autres Renault.
C'est pratique.
C'est pas très pratique, effectivement. Cet euphémisme est assez réel. C'est Carlos Tavares, historiquement, qui a voulu l'Alpine. Et Carlos Ghosn a donné son feu vert parce qu'il voulait remonter la gamme Renault ou faire des voitures chères, en pensant que ça aurait un succès énorme. Sauf que la renommée d'Alpine ne dépasse finalement pas les frontières hexagonales.
Et alors, justement, est-ce que ça veut dire que il y a donc, au travers de ces prévisions, parce que, encore une fois, quand l'Alpine a été relancée, il s'agit d'une renaissance de la marque, est-ce qu'on s'attendait à en vendre beaucoup plus? Parce que ce que vous dites, finalement, est frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire, on se dit que, bon, bah, une voiture de sport, c'est quand même assez exclusif. Là, c'est une voiture de sport pour deux personnes. Enfin, bref. Et on pouvait difficilement imaginer inonder la totalité de la planète avec ce type de voiture, Benjamin Cuq.
Quand vous avez un patron de Renault qui s'appelle Carlos Ghosn, dont la morgue est sans équivalent, dont la vanité est absolue et qui se considère l'égal d'un chef d'État, il va penser que sa voiture est un succès assuré. C'est ça qui est désolant, c'est qu'il envisage même pas qu'il y ait une concurrence en face, qui pour principalement l'Alpine est en face d'une Porsche qui s'appelle la Porsche Cayman, qui se vend entre 20 et 25 000 exemplaires par an.
Elle se vend mieux.
Elle se vend 5 fois mieux dans un marché mondialisé dont la moitié en Amérique du Nord. L'Alpine, la renommée de l'Alpine ne franchit pas les frontières de la France, un peu en Allemagne, un peu en Angleterre. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Une fois qu'on en a acheté une, on va pas en acheter une deuxième, surtout.
Et alors, justement, qu'est-ce que ça révèle comme échec du système Ghosn? Parce que au-delà de ça, donc, c'est une affaire terrible, puisqu'il y a aujourd'hui en suspens la fermeture d'une usine avec des emplois qui seraient perdus. Qu'est-ce que ça révèle, Benjamin Cuq, de la manière dont Renault a été managé à l'époque de Carlos Ghosn?
En termes de management, ça révèle une volonté d'en mettre plein la vue. Historiquement, Renault, ce sont des petites voitures de segments A, B et C.
Des voitures populaires.
L'Alpine, historiquement, le son qu'on entendait montrait bien, c'était une voiture moulée. En fait, c'était une base de châssis de 4 chevaux, sur lequel on mettait une carrosserie en plastique qui pesait même pas 70 ou 100 kilos, une centaine de kilos, je crois, et qui avait des performances de petites voitures légères destinées au rallye. Aujourd'hui, une Alpine, c'est léger, sauf que c'est un châssis tout en aluminium, une carrosserie en aluminium, de l'électronique, un moteur turbo de 252 ou 290 chevaux. Ça coûte beaucoup plus cher
à concevoir,
à fabriquer et à vendre. Parce qu'en plus, on la vend pas chez un agent Renault. L'agent Renault de Romorantin, c'est un peu plus compliqué. Il faut un showroom. C'est quelque chose qu'on met en avant. C'est pas aussi facile que de vendre une Twingo.
Est-ce que ça veut dire, finalement, Benjamin Cuq, qu'il est tout à fait possible de vendre des Renault à condition que ce soit des voitures populaires? Et finalement, une partie des difficultés de Renault vient du fait que, en dehors des 4L, des R5 et de leurs successeurs, donc là, en l'occurrence de la Clio, il a été difficile pour Renault d'élargir la gamme, en tout cas récemment.
Historiquement, c'est un virage auquel on a assisté dans la fin des années 70, début 80, qui est assez terrible, c'est que Renault a voulu monter en gamme. Renault a vraiment voulu monter en gamme, alors que les voitures des présidents en France, c'était la Bugatti, puis la Citroën et la 604 Peugeot. C'était des voitures des marques, des constructeurs français privés. La régie Renault a voulu montrer que la classe ouvrière pouvait fabriquer du luxe. Donc on s'est lancé.
Ça a été la République des R25 et des Safran.
Exactement, ça a été la République des R25. Sauf que la R25, ça a eu énormément de succès parce que c'était pas un marché mondialisé. On achetait français. À l'époque, le marché français était dominé par 70-80% par de l'achat français. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, un patron de PME peut rouler en BMW, ça ne dérange personne.
Attendez, parce que vous sautez une étape quand même. Les R16, elles ont été des voitures qu'on a beaucoup vues rouler. C'était les concurrentes des DS. Non, vous n'avez pas l'air d'être d'accord.
Non, la R16, c'était quand même en dessous de la DS. La DS, c'était la DS. C'était le grand luxe à la française, la DS. La R16, c'était une voiture de cadre, une voiture de fonctionnaire. C'était pas une voiture de ministre.
Et ça n'a pas été un succès commercial ?
Ça a été un relatif succès commercial par rapport à la DS. La DS, c'est 2 millions de voitures vendues. La R16, c'est pas 2 millions.
Mais à cette époque-là, Renault arrivait encore à construire des voitures. Alors qu'effectivement, la R16 n'était pas une voiture luxueuse, mais ça n'était pas une voiture populaire.
C'était pas une voiture populaire, mais c'était une voiture intermédiaire. C'était une voiture. C'était un rêve accessible au cadre moyen. C'était ça qui était intéressant. C'était pas la DS, c'est pour ça que Citroën a fait l'idée, pour baisser la gamme. Renault n'arrivait pas à monter en gamme. C'est le modèle emblématique, c'est la R20, puis la R30. La R30, c'est un moteur qui était un moteur V6, sauf que le moteur V6, Renault avait échoué à construire un moteur V8. C'est un moteur qui a été conçu avec Peugeot et Volvo, et qui est un moteur bancal, parce qu'au départ, c'était conçu comme un V8, mais avec la crise du pétrole, on n'y est pas arrivé, donc on a fait un V6, on l'a mis dans des Alpines, justement. C'est ça, on le retrouve dans des Alpines, on le retrouve dans les R25, mais on a ramé, quoi.
Et alors, toujours si on continue sur cette tentative d'étendre la gamme, l'espace. Alors l'espace, au moins, ça a été un succès, Benjamin Cuc.
Et ça a été un succès, mais c'est un succès accidentel. Au départ, c'est une Matra. C'est l'usine Matra de Romorantin. On parle de Romorantin tout à l'heure. Jean-Luc Lagardère propose la voiture à Peugeot. Peugeot n'y croit pas, PSA n'en veut pas. Il dit non, ça ne nous intéresse pas. Il se retourne vers Renault, qui a encore la régie, dit ok, banco. Ils y croient. Et lance la Renault Espace. Et c'est le premier monospace, c'est-à-dire le minivan familial. Et là, c'est un succès.
Une voiture modulable, une voiture perçue comme très pratique.
Mais encore, ça allait toujours du modèle très familial au modèle assez luxueux. Il y avait un éventail extrêmement vaste qui permettait aux familles de cadres moyens d'enseignants de pouvoir se payer un espace. Les enseignants à 3 enfants avaient un espace. Après, Renault a décliné le modèle du monospace sur le Scénic, sur le Grand Scénic, toujours en augmentant la base. Le monospace, c'est ce dont voulaient les Français. Les Français voulaient des monospaces. Renault était leader du monospace en 2005 dans le monde, en volume et en gamme, c'est-à-dire qu'il avait une large gamme de monospaces qui allait du Modus jusqu'au Grand Espace. Et il a voulu conserver ce leadership, sauf qu'il a gardé un leadership de gamme, mais a totalement fait disparaître le marché, puisqu'aujourd'hui, le marché du monospace, c'est même pas 5%.
Et alors, attendez, parce que, justement, s'il s'agit de porter un coup final à cette stratégie étonnante, Renault a eu un succès, la marque Dacia, qui, elle, se vend très bien, mais du coup, a cannibalisé en partie, en tout cas, les ventes de modèles populaires, Benjamin Cuc.
Le problème de Dacia, c'est que ce sont des Renault, tout le monde sait que ce sont des Renault, et qu'elles répondent à la philosophie Renault, d'une voiture fiable, populaire, qui répond à l'essentiel de ce que doit proposer une voiture, et c'est très bien. Aujourd'hui, une Dacia Duster, c'est l'équivalent d'une R19. En termes d'attente du client, 35% des véhicules vendus sont des SUV. La Duster, c'est la voiture préférée des Français. C'est comme la Sandero Stepway. C'est la voiture préférée, la plus achetée par les ménages français. parce que c'est l'équivalent de la 4L, de la R5, de la Super 5 et de toutes ces voitures qui ont enchanté les Français dans leur vie quotidienne.
En conclusion, Benjamin Cuc, le nouveau patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, a expliqué qu'il était inquiet pour l'avenir de la régie. Est-ce qu'il est fondé à l'être ou est-ce qu'il instrumentalise la période pour obtenir à la fois des aides de l'État et puis aussi pour faire passer un plan social extrêmement dur?
Je pense que Jean-Dominique Sénard est un honnête homme, comme on pouvait dire au 19e siècle, et qu'il a toutes les raisons d'être inquiet. On disait au début de l'entretien que l'usine de Dieppe produisait 7 voitures par jour, avec 400 salariés. Le modèle économique n'est pas tenable. Clairement, il n'est pas tenable. Et donc, vers quoi se tourner? On évoque un avenir pour Alpine qui s'orienterait vers le modèle électrique, vers une Alpine électrique. Ce serait sans doute une bonne idée, parce que la motorisation électrique permet une certaine dynamisme, une certaine sportivité, et ça s'y prête assez bien. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'avoir une autonomie de 500 km avec une Alpine. La nouvelle Porsche a une autonomie de 300 km. Une Tesla en modèle de base, si on appuie fort, on perd de l'autonomie. Et ce sont des voitures très dynamiques, très sportives.
Merci beaucoup, Benjamin Cuc. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en automobile. Vous avez notamment publié le livre noir de Renault chez First Edition. Vos critiques, vos remarques, vos suggestions, vos idées de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com, guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Aurélien Dubost à la production, gâché par Swad Boukorsa à la technique et complètement ruiné par Vivien Demeyer à la réalisation. Superfell.